RMC. Lahaye, l'amour et vous, Brigitte Lahaye.
Bonjour à tous, je vous propose de passer deux heures de plaisir au programme. Nous allons commencer par les interprétations gestuelles de Stéphane Bunard. Et comme ça, vous saurez si vous avez séduit votre interlocuteur ou votre interlocutrice. Et tout de suite, nous écoutons Kaïna qui me parlait de la première fois où elle m'avait écoutée à la radio. Et Sandy Pousseau était avec moi ce jour-là.
Oui, bonjour Brigitte, bonjour Sandy.
Bonjour Kaïna.
Ce qui m'a fait sourire, c'est que je me suis rendu compte que la première fois que je vous ai entendu, c'était il y a quelques années déjà, et j'étais choquée par tout ce que j'entendais.
Mais ça, je l'entends volontiers. Je pense qu'en effet, si on tout d'un coup on tombe un peu par hasard sur cette émission, qu'on n'est pas encore très éveillé dans sa sexualité, voilà. on peut être terriblement choqué. Voilà. Je suis d'accord.
Et alors, tout me choquait à chaque fois, et j'avais l'impression que j'avais à l'époque, c'était que quel que soit le message des auditeurs, tout était ok entre guillemets. Voilà, et je me disais, mais il n'y a jamais de limite. Tout est ok, il n'y a jamais de limite.
Okay. Vous aviez quel âge?
C'était il y a quelques années, donc j'avais pas encore 30 ans.
D'accord.
Voilà. Et ce qui me fait surtout très plaisir, c'est de voir que des années plus tard, quand je vous écoute aujourd'hui, parce que j'ai continué quand même à vous écouter, il n'y a pas grand-chose qui me choque. Finalement, aujourd'hui, avec le recul, voilà, on a chacun ses repères, ses plaisirs, les choses qu'on fait pas, voilà, chacun ses repères. Mais aujourd'hui, je suis plus dans ce ressenti-là, c'est-à-dire dans le choc. Et du coup, je me disais qu'en quelques années, avec mon évolution personnelle et peut-être aussi avec vos émissions, qu'on avançait et qu'on évoluait bien finalement, et que c'était le côté plaisant de se rendre compte, parce qu'on n'a pas toujours l'occasion de s'en rendre compte, qu'on évolue et qu'on s'ouvre.
Qu'est-ce que vous avez compris de vous-même justement, Kaïna?
On pourrait en parler des heures, hein.
Allons-y.
Très rapidement, parce que là, du coup, j'ai pas trop réfléchi, j'ai entendu le podcast ce matin, et du coup, j'ai appelé. Mais qu'est-ce que j'ai compris de moi-même? Non, je me suis plus penchée récemment sur ce que moi, je ressentais. Par exemple, dans la sexualité, ce que moi, je ressentais sur le comment j'avais vécu ma sexualité au début, peut-être en contradiction avec mon éducation, et pas forcément pour moi-même. Et voilà, mon cheminement, c'est plutôt ça. C'était de me rendre compte que j'avais ma propre sexualité, mes propres envies, en dehors du modèle qui vous formate un petit peu, votre éducation, votre milieu. Et qu'aujourd'hui, je suis plus dans, finalement, après tout... si vous trouvez votre épanouissement et votre plaisir dans quelque chose, alors c'est très bien.
Voilà. Oui, il y a une histoire de sécurité de base quand même dans tout ça. Une fois qu'on est sécurisé soi-même, on peut du coup s'ouvrir à d'autres choses et être moins choqué par l'expression et le partage de l'autre.
Qu'est-ce que vous entendez par sécurité de base?
C'est la sécurité interne. Comment est-ce que je me sens en sécurité pour pouvoir me partager?
Oui, d'accord. Mais ça, je pense que ça vient avec la confiance en soi de manière plus générale.
Bien sûr.
Je pense que de manière générale, il y a eu beaucoup de travail sur la confiance en soi et que la confiance étant là, la sécurité interne étant là, effectivement, ça porte ses fruits aussi dans la sexualité. Voilà. Donc voilà, moi ça me faisait plaisir en tout cas de voir qu'aujourd'hui, après quelques années, j'étais plus aussi choquée par tout ce que je pouvais entendre à la radio. Et que pour moi, c'était signe d'ouverture quand même.
C'est sûr que vous êtes
envers les autres.
Vous êtes devenue obligatoirement beaucoup plus tolérante, bien sûr.
Voilà.
Mais c'est toujours pareil, c'est difficile de parler de sexualité au plus grand nombre, parce que forcément, on a chacun une sexualité individuelle, et entendre ce que fait quelqu'un d'autre que soi-même on ne voudrait pas faire ou qu'on n'oserait pas faire, ça peut déranger, bien sûr. Hein. Je comprends tout à fait qu'on puisse être choqué. Et d'ailleurs, je vais raconter une petite anecdote, Kaïna, qui va sans doute amuser beaucoup d'auditeurs. J'ai évidemment beaucoup de gens autour de moi qui écoutent un peu l'émission et qui de temps en temps m'en parlent. Et alors c'est très très drôle, parce que chacun me dit « Ah oui, mais tu parles trop de libertinage » ou « tu mmh. prônes trop l'infidélité ou tu ne parles pas assez de d'homosexualité. Et finalement, dans les critiques que mes amis, mon entourage me font, à chaque fois, je comprends quelque chose d'eux-mêmes, parce que c'est évidemment d'eux-mêmes qui me parlent. Mais
oui,
moi j'essaye.
C'est
j'essaye.
En résonance par rapport à eux.
Mais bien sûr. Moi, j'essaye d'être le plus neutre possible. Je sais bien que c'est impossible, hein, je ne prétends pas l'être. Mais j'essaye, en tout cas, d'être le plus neutre possible. C'est ma mission. Je n'ai pas à donner mes convictions sur ce qui est une bonne ou une mauvaise sexualité. Mais bien sûr, je n'arrive pas à être complètement neutre, parce que je ne suis qu'un être humain. Mais j'essaye, en tout cas.
Le plus possible, voilà. C'est ça, je pense, le travail de... C'est un peu de la tolérance, parce que c'est le travail de détachement par rapport à ce que nous vivons, et accepter que les autres n'aient pas forcément les mêmes idées, la même sexualité, et que
Mais pour être
énorme et large.
Pour être neutre sur la sexualité, il faut quand même avoir déjà été un petit peu caressé ses démons.
Oui. Écoutez, je vais...
Puis c'est dommage d'être neutre dans la sexualité.
Je vais continuer mon chemin.
Ouais. Essayez voilà. de jouer avec la queue du diable.
Du diable, je ne sais pas, mais avec de quelques hommes peut-être.
C'est une image.
Voilà.
C'est une belle première fois.
Voilà.
Merci Kaina. Merci à vous. Bonjour José.
Bonjour Brigitte.
Bonjour José.
En 2012, j'ai fait une cure psychologique d'un mois. Une cure de 29 jours exactement. C'est pas plus, c'est pas moins, quoi. C'est obligatoire. Puis bon, pendant un an, j'ai tenu le choc sans problème, quoi. Alors, ça veut dire éviter les médicaments, éviter l'alcool, et puis savoir de où il vient le problème de l'alcool. Parce que le problème de l'alcool, tout le monde en consomme tous les jours, mais on sait pas pourquoi on boit de l'alcool, quoi. Voilà. Et grâce à cette cure, j'ai pu approfondir les choses de mon enfance, de partout, quoi. Et voir un petit peu comment la vie se déroule, quoi.
Oui, vous voulez dire que ce qui vous a aidé, c'est à la fois, bien sûr, le sevrage, mais aussi une meilleure compréhension de qui vous êtes.
De qui je suis, oui, parce que bien jusqu'à il y a un an, je ne savais pas qui j'étais. Je faisais, parce que j'ai quand même, depuis que je le sais, j'ai commencé l'alcool à l'âge de 5 ans, hein, mine de rien. Bon, c'est quand même quelque chose d'assez aberrant, quoi. Hein, après, ça montait en puissance à partir de l'âge de 15 ans, et de 15 ans jusqu'à 49 ans.
Oui, voilà. C'est presque dans votre culture, quoi, au départ. Hein.
Voilà, c'est bon, disons que c'est la vie qui a voulu des choses comme ça, quoi. Chose pas trop normale, mais bon, moi, j'en suis sorti, et il y a que 2 centres en France, de toute manière, c'est pour ça que je me suis permis d'appeler, quoi.
Vous avez
parce
bien
que
fait,
de partout,
oui.
J'ai été dans des cliniques psychiatriques, j'ai été dans des cliniques médicamenteuses, de partout, mais bon, pour moi, c'était pas bon. C'était surtout un suivi psychologique, quoi.
Ce qui est sûr, c'est qu'il faut, et vous avez raison, l'alcool provoque une addiction, et à un moment donné, il faut de l'aide pour s'en sortir. L'aide du médecin traitant, l'aide de la cure que vous avez fait. Mais seul, on culpabilise davantage et on n'y arrive pas. Donc il faut impérativement qu'une main soit tendue pour vous aider à sortir de là. Trouver les raisons pour lesquels vous avez eu cette consommation d'alcool. Trouvez aussi les petits trucs qui font qu'on peut mieux résister et éviter de retomber dans le système.
Mais le problème, souvent, dans une addiction, quelle qu'elle soit d'ailleurs, hein, que ce soit l'alcool, même la cigarette, c'est qu'on est un peu dans un déni. On se dit, bon, oui, d'accord, je bois un peu, mais finalement, je bois pas tant que ça. Je suis pas sous, je suis encore lucide. Et tout doucement, et puis quand quelqu'un nous le dit, ben, on devient presque agressif, parce que justement, on veut pas le reconnaître. Donc la première chose, c'est déjà d'accepter de reconnaître qu'on a ce problème-là. Et ensuite, en effet, si on voit qu'on n'y arrive pas, il faut se faire aider, évidemment.
D'ailleurs, c'est intéressant, parce que quand un sujet arrête une consommation d'alcool, s'il n'est pas allé trop loin, le foie a une capacité de régénération formidable. C'est-à-dire qu'on peut gommer ce qui s'est passé, si on ne va pas trop loin. Donc, cette symbolique du foie qui régénère montre qu'on peut, je veux dire, retrouver sa jeunesse, ses sources, ça peut repartir, c'est un message d'espoir qui est formidable. Alors, une fois qu'on a touché à l'alcool, les gens ont du mal à en sortir, mais une fois qu'on a arrêté de boire, c'est un cercle vertueux qui se déclenche, et vous devez vous sentir beaucoup mieux,
oui.
Beaucoup moins fatigué. Et c'est tellement agréable de sentir ces bonnes sensations.
Et puis je me permettrai, José, de dire, vous avez foi en vous maintenant.
Voilà, tout à fait. Justement, je voudrais dire quelque chose par rapport au monsieur qui vient de dire sur le foie.
Oui.
Exact. Et en plus, en cure, ils nous apprennent tout ce qui est sur le foie, le diabète, le cholestérol et tout. Et moi, je suis rentré, j'avais un taux de cholestérol qui était presque à 10. Et là, je suis revenu normalement au bout de 29 jours. Hein. C'est quand même assez magnifique, quoi.
Ah ouais, ben il était temps, avec voilà. Un taux de cholestérol à 10, José, vous
oui,
étiez
moi,
en danger.
Hein. Toute ma vie, c'est sûr, mais bon, l'alcool a fait beaucoup de temps.
Voyez, par votre volonté, vous avez inversé le cours d'un destin qui aurait été tragique. Et d'un seul coup, vous changez les cartes, vous changez la donne, votre foie régénère, vos constantes biologiques se normalisent, et c'est une vie nouvelle qui commence. Bravo pour avoir subi cela, pour ce que vous faites.
Et moi, je souhaite à beaucoup de monde, surtout, tous ceux qui sont dans le système alcoolisme, c'est de contacter ce centre, parce que vraiment, il n'y en a pas beaucoup, et en plus, il y a des gens qui ont revendiqué parce qu'ils devaient fermer. Et apparemment, il ne ferme plus. Alors,
Mais le problème en France, c'est que l'alcool, c'est presque chouette, quoi. Alors, c'est en train de changer depuis quelques années, mais il y avait une culture de l'alcool en France, enfin dans d'autres pays aussi d'ailleurs. Hein, mais autant, et c'est pour ça que moi, je suis pas pour la dépénalisation du cannabis, parce que on risque de tomber dans la même chose que la culture de l'alcool.
Mais il y avait une culture d'alcool. C'est vrai qu'à un moment donné, quand vous alliez au restaurant et qu'on commandait pas de vin, on vous faisait la tête.
Passer pour des moins bons vivants.
Pas bons vivants, ou radins, ou vraiment. Et vrai, il y avait une mauvaise relation avec le.
Et vous vous souvenez, puisqu'on a certainement à peu près le même âge, Frédéric Salman, à l'époque, moi je me souviens, il y avait presque le digestif obligatoire à la fin du repas.
Absolument,
quoi.
Il y avait l'apéritif systématique, le chariot de digestif avec toutes les liqueurs qui suivaient. On sortait complètement imprégné.
Complètement bourré, oui.
Et je veux dire que heureusement, le chariot de digestif a disparu. Toute une série d'apéritifs ont disparu. Je veux dire que quelque part, les gens, et j'en suis très heureux, commandent au restaurant un verre de vin quand ils en prennent, et pas la bouteille.
C'est nouveau, bien sûr.
Mais qu'est-ce que c'est bien? Juste la dose qu'il faut, sans trop. Et je veux dire que c'est un vrai progrès qui s'est fait. Heureusement, notre culture est en train de changer.
Merci beaucoup, José, de votre témoignage.
Je
vous en prie, allez-y.
Il faut se dire une chose, c'est que l'alcool, soit quelqu'un qui fume ou qui boit, l'un ou l'autre amène, si vous fumez, ça amène l'alcool. Et l'alcool, vous fabriquez de la drogue. Alors, donc, l'un et l'autre, c'est pas très bon.
Vous avez raison, ça a été étudié, l'un entraîne l'autre.
Et le café aussi entraîne la cigarette qui entraîne l'alcool.
Voilà, c'est des cercles qui s'enrayent à un moment donné.
Voilà,
vous avez entièrement raison.
C'est des choses qu'on a appris là-bas en cure. Ils nous apprennent tout ça, et je vais vous dire, les gens sont formidables. Autant des femmes de ménage, des cuisiniers, tout le monde s'occupe de vous. C'est une maison, elle est ouverte à tout le monde. Il n'y a pas de volet, il n'y a pas de cadenas,
il faut pas avoir envie d'y retourner, José, hein, même si c'était formidable.
Non, pas du tout, mais je veux dire que si on peut aider des gens, c'est quand même un centre qui est formidable, quoi.
Absolument.
Voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
Merci beaucoup, José.
Merci.
Merci à vous.
Merci,
et bravo.
Au revoir.
Merci.
Alors, Stéphane Bunard est avec nous. Figurez-vous, Stéphane Bunard, ça fait déjà un petit peu de temps que vous venez nous raconter un peu notre gestuel et qui nous trahit, ou qui parfois révèle des choses très agréables et très positives. Mais alors, il y a une question que se posent les hommes. Comment savoir si elle est séduite? Parce que vous savez, ils viennent de la rencontrer, ils sont assis face à elle, dans un café, dans un resto, dans un lieu public, enfin bref, qu'importe. Quels sont les gestes? Alors moi, je fais attention de ne pas en faire. Hein, parce que, quels sont les gestes, Stéphane Bunard, qui peuvent leur permettre de penser qu'ils ont un ticket?
Alors, bonjour, oui. On n'est pas obligé de se gratter, on n'est pas obligé d'avoir des mouvements de bouche, on n'est pas obligé d'avoir des mouvements d'épaule, mais on a une tête. Hein. Jusque-là, tout va bien. Donc, la configuration
Qu'est-ce qui montre qu'elle a perdu la tête?
Et voilà, oui. Et que lui va perdre la boule peut-être du coup après. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe? En fait, il faut regarder la tête. Et si la tête penche à gauche, hein, parce qu'on dit souvent, les idées reçues, la tête penche, oui, mais de quel côté elle penche? Si elle penche à gauche, j'allais dire, il y a de la détente chez la personne.
C'est bon
signe.
Si elle
penche à droite, c'est de la vigilance. Et si elle bascule de la droite vers la gauche, c'est que je suis à un moment clé où je l'ai aidé à basculer de la vigilance vers la détente. Et si elle était vraiment la tête qui penchait à droite, c'est-à-dire en rigidité, et que je dis quelque chose, elle va pas forcément basculer complètement à gauche, mais le fait de revenir légèrement du vraiment très bas à droite vers un peu plus haut, ça montre qu'il y a une souplesse qui est faite.
D'accord. Donc tête à droite, ça veut dire qu'elle est elle se contrôle parce qu'elle est pas en confiance et que donc a priori c'est pas gagné.
Vigilance.
Tête à gauche, l'oreiller est pas loin.
Voilà. Alors attention, parce que évidemment les femmes ont une infinie supériorité sur les hommes, c'est qu'elles savent amadouer non consciemment le garçon qui est en face. Par exemple, elles vont se micro-caresser la poitrine, enfin le dessus de la poitrine, ça c'est quelque chose, un code assez archaïque. J'attire l'attention sur une zone de séduction parce que l'homme, je sais bien que je peux le mener par le bout des ondes du nez, et que à ce moment-là, je vais lui demander, par exemple dans le monde du travail, ce sera Roger, est-ce que vous voulez bien, alors donc je suis en train de me micro-caresser, hein, pour expliquer
le donner une augmentation.
Voilà, une augmentation dans ce sens-là, ou ramener un dossier chez vous à la maison. Bon. Et d'une certaine façon, l'axe de tête, la tête qui penche à gauche, de manière non consciente, hein, peut être une espèce de code d'amadouement, quoi, de l'autre, hein. C'est-à-dire qu'on va pencher la tête en disant, tiens, est-ce que tu veux bien qu'on fasse ci, est-ce que tu veux bien qu'on fasse ça?
Oui, c'est ça. Il y a un côté
manipulation. C'est un peu ce qu'on appelle inaudé, quoi, hein, voilà. Mais, si c'est hors de ce contexte-là, effectivement, ça peut être de la détente.
Ouais. D'accord. Et alors, moi, j'avais entendu dire que quand elles se prennent un petit peu une mèche de cheveux entre les doigts, c'était très très bon signe. Est-ce que c'est une idée reçue? Est-ce que c'est vrai?
Alors, ça dépend. Si c'est du côté gauche, là encore, qui est plutôt la partie intime, c'est vrai. On s'aperçoit d'ailleurs, les études le montrent, que...
Vous êtes très à gauche, hein, Stéphane Bénard.
Non, mais la gauche, c'est le cerveau droit, en fait, qui s'active, vous voyez, donc ça brouille les pistes, du coup. On s'aperçoit dans les études que quand quelqu'un, notamment une femme, met la main dans les cheveux à gauche, il y a un geste de séduction. D'ailleurs, elle met plus de temps que quand elle le fait à droite. Et ça, quelle que soit la longueur des cheveux, qu'ils soient courts ou qu'ils soient longs. Mais on voit aussi quelqu'un comme Luc Hénic, aime beaucoup qu'on parle de lui quand on le voit à la télévision. Il va y avoir une caresse des cheveux à gauche. Et puis, dans son cas, aussi une langue de délectation, ce qu'on peut trouver aussi chez une femme. C'est aussi un signe quand on voit la langue qui sort.
Oui, c'est ça. Si je me passe la langue sur les lèvres, voilà. C'est mon signe.
Mais pas de n'importe quelle façon. C'est-à-dire que bon, ce que j'explique dans le bouquin, c'est qu'il y a au moins une dizaine de façons de voir la langue sortir. Enfin, bon, sans compter les consciences.
Quand elle croise les jambes aussi, on m'a dit que c'était pas très bon signe.
Le croisement de jambes, il est plutôt systémique. Ça veut dire que ça va être une position de confort. Ce qui va être intéressant, c'est quand la femme se caresse la cheville, parce que la cheville. Vous savez que voilà. Bon, okay, c'est un peu particulier. Mais la jambe en elle-même, le croisement, ça va être souvent une position de confort.
Et donc finalement, il y a peut-être moins de signes qu'on pouvait l'imaginer, hein, dans ce que vous nous dites.
Ben si, il y en a beaucoup. Il y a l'idée de, il y a le sourire aussi, c'est-à-dire que le sourire, il faut non pas regarder le sourire pour si c'est un vrai sourire la bouche, mais il faut regarder les yeux. Dans le vrai sourire, il y a un petit muscle qui relie les zygomatiques à ce qu'on appelle l'orbiculaire. Donc de la même façon que quand on veut voir la sincérité, il faut pas regarder les yeux, il faut regarder la bouche. Pour voir un vrai sourire, il faut regarder les yeux et presque masquer la bouche.
Donc en quelque sorte, quand il y a corrélation entre la bouche et les yeux, si c'est... Alors ça, c'est presque intuitif. On peut sentir s'il y a une vraie cohérence, si je puis dire, entre les yeux et la bouche, c'est que c'est bon. Sinon, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche.
Oui, ça on peut le voir. Mais le décrochage du pompon, Brigitte, c'est l'arc de Cupidon. En fait, quand on voit une femme se micro-caresser le petit renflement là qui est au-dessus de la lèvre supérieure, alors là, c'est bingo. C'est bingo.
C'est ça.
Voilà. Le problème, c'est que chaque fois, ça marche pas à chaque fois. Enfin, chaque fois qu'on le voit, c'est bon. Mais chaque fois que ça peut être bon. Il n'y a pas forcément ça.
Elle va pas forcément le faire. Et puis maintenant, toutes les femmes qui nous ont écoutées, elles vont se retenir.
C'est clair. Mais quand c'est là, c'est un appel de phare. Quoi. C'est plus un ticket. Vous parliez de ticket. Là, c'est l'abonnement. Quoi.
C'est ça. Voilà. Donc, quand la femme se caresse la lèvre supérieure juste au milieu, je suis en train de le faire, c'est bon. Vous pouvez retenir une chambre à l'hôtel.
C'est ça.
RMC, le meilleur de Brigitte Lahaie. RMC. Lahaie, l'amour et vous, Brigitte Lahaie.
Écoutons Emmanuel. Sa femme souffrait de béance vaginale suite à son dernier accouchement et nous étions avec un spécialiste des traitements de l'infertilité, Hugues Rennes.
Bonjour, hein, bonjour Brigitte, bonjour Monsieur Rennes.
Bonjour.
On vous écoute Emmanuel. Vous êtes en couple donc depuis 8 ans, hein, c'est ça?
Exactement, et on a un petit garçon qui a 5 ans. Donc ça se passe très très bien, il n'y a pas de souci. Simplement, juste après l'accouchement de mon épouse, on a connu quelques difficultés dues à une hypotonie. C'est-à-dire que, enfin le mot je l'ai noté, mais en fait concrètement ça signifie, si vous voulez, qu'au niveau du vagin, tout est déconnecté des nerfs, les muscles ne répondent pas vraiment. Et donc du coup, depuis maintenant 5 ans, on connaît une sexualité assez compliquée. On a essayé, si vous voulez, via les préliminaires, via des pratiques sexuelles un peu différentes, de pallier à tout ça. Mais au bout de quelques années, on a quand même essayé de voir ce qu'il était possible de faire chirurgicalement. Et là, on s'aperçoit qu'en fait, c'est assez compliqué et que suite à une périnéographie superficielle, là, on nous explique tout gentiment que ça va rester tout le temps comme ça et qu'il n'y aura pas d'évolution.
Je vais demander à Hugues Rennes de traduire un petit peu ce que vous venez de nous dire.
Alors, l'accouchement produit une plus grande souplesse du vagin, c'est assez normal, ça. Et ensuite, les tissus redeviennent toniques, d'abord parce qu'on fait du sport, parce qu'on remuscle, parce qu'on fait de la rééducation périnéale. Et tout ça, en principe, fait que, de nouveau, les rapports sexuels sont satisfaisants. Alors après, en effet, de toute façon, il y a une plus grande souplesse du vagin qui reste de façon normale, mais qui ne doit pas produire quelque chose d'exagéré, parce que dans ce que vous dites, on a donc réparé le périnée, périnéographie, ça veut dire qu'on a fait une intervention chirurgicale pour un petit peu resserrer le périnée. Bon, ça, c'est des choses qui peuvent arriver quand il y a eu des dégâts importants, mais c'est assez rare. Par contre, ce que j'ai pas compris, c'est si c'est vous qui êtes gêné ou elle qui est gênée.
Les deux, en fait. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de sensation du tout, et moi, j'en ai aucune non plus. C'est-à-dire que, si vous voulez, suite à l'opération qui a été faite maintenant il y a 2 ans, effectivement, il a resserré au niveau de l'entrée du vagin. Mais ce qui pose problème, c'est pas du tout l'entrée, c'est à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est complètement béant. Elle ne sent rien et moi je ne sens rien. Ce qui fait que maintenant.
Qui est-ce qui a opéré votre femme? C'est son gynéco?
Non, un gynéco l'a dirigé vers un
chirurgien.
Qui est spécialisé dans ce type d'opération. Et suite à cette opération, 2 ans plus tard, on se rend compte que ça sert effectivement à l'entrée, mais après ça sert pas du tout et elle ne sent rien, moi je ne sens rien. Enfin voilà quoi.
Bon, alors je crois que si vous voulez, il faut d'abord qu'elle ait vu son gynéco et qu'elle lui ait demandé clairement si l'intervention est satisfaisante ou pas anatomiquement. Si anatomiquement il n'y a plus de problème, alors il faut prendre le problème autrement. Il faut prendre le problème dans le fait que de toute façon, même si le vagin est un peu plus souple, tout le clitoris et toute la partie intérieure qui rentre dans le vagin est indemne. Donc je ne vois pas pourquoi, en modifiant un petit peu votre sexualité, elle ne pourrait pas avoir du plaisir et vous aussi. Surtout quand on sait que les données mécaniques sont pas le plus important dans la sexualité, mais que c'est énormément cérébral et qu'il y a plein de jeux qui peuvent, j'allais dire, contourner cette difficulté que vous avez et auquel il faut trouver une solution.
Oui, là je pense que vous êtes tous les deux en train de vous dire ça marche
plus. C'est ça. Alors que...
Et c'est sûr que ça marche plus. Alors il y a peut-être aussi de la rééducation à faire parce que quand vous dites c'est béant, d'accord, mais enfin on n'est quand même pas dans un gouffre sans fond. Hein. Déjà, ce serait intéressant que elle-même, peut-être avec ses doigts ou avec à ce moment-là qu'elle travaille avec une kiné qui fait de la rééducation spécifiquement périnéale, que déjà elle sente son corps, qu'elle comprenne, parce que là on a vraiment l'impression que c'est comme si vous imaginiez qu'il y a plus rien quoi.
Vous avez une représentation tous les deux de quelque chose et il faudrait s'appuyer sur quand même une réalité médicale anatomique parce que j'ai l'impression, c'est souvent le cas, hein. C'est-à-dire dans toutes les patientes que j'ai pu voir et les patients, il y a quelquefois ils nous disent des choses. Et puis quand on examine, on se rend compte que c'est une grande partie qui a été reprise par le psychisme à partir d'une réalité. Je ne dis pas qu'il y a une certaine réalité, mais ça a été amplifié et ça devient comme si c'était la seule raison à tout. Et je pense que là, il y a vraiment quelque chose à faire de précis dans votre cas, si je peux me permettre.
Parce que là, en l'occurrence, la réalité physique, elle est là. C'est-à-dire que, par exemple, la semaine dernière, elle était chez le gynécologue et il lui met 2 doigts et elle lui dit clairement, je ne sens pas vos doigts. Enfin, je peux pas, je les sens pas. C'est-à-dire
qu'elle mette les siens et qu'elle aille sentir, Emmanuel. Je pense qu'il faut vraiment qu'elle se réapproprie son vagin. Et encore une fois, moi, je suis d'accord avec vous, Hugues. Beaucoup de femmes n'osent même pas imaginer qu'on puisse y mettre un doigt ou, Et à partir de ce moment-là, comme ce n'est pas représenté psychiquement, on peut partir dans un fantasme, en effet, de qu'il n'y a plus rien, que donc il n'y a plus de plaisir, et c'est contre ça qu'il faut lutter. Il faut revenir dans du concret.
Il y a quelque chose qui a évolué anatomiquement, c'est certain, mais l'un et l'autre, vous en avez une représentation négative qui va aggraver les choses. C'est ça que j'essaie de vous faire sentir. Et je le comprends. Mais qu'en même temps, il faut essayer de trouver une solution parce que vous n'allez pas rester comme ça 20 ans sans avoir de plaisir, autrement ça va mal se finir. Et donc il faut vraiment trouver une solution. Et il faut s'appuyer sur une réalité médicale et voir de ce point de vue-là, s'il n'y a rien de spécial, qu'est-ce qu'il faut trouver pour compenser cette difficulté.
Parce que Emmanuel, on ne vous dit pas que votre sexualité n'a pas changé. Hein. Comprenez-nous bien, on n'est pas du tout en train de ne pas vous croire.
Bien sûr qu'on vous croit.
On vous croit.
Il y a une vraie douleur.
Mais on dit simplement que votre discours, si vous voulez, de ce que vous nous racontez, c'est pas possible sur un plan anatomique. Il peut pas y avoir un trou béant après la naissance d'un enfant, vous voyez.
Ouais, d'après ce qui avait été donné par un premier gynéco, si vous voulez, parce qu'on en a vu 2, et le premier effectivement, était d'accord avec le fait qu'effectivement les nerfs étaient complètement,
Non mais elle a toujours son clitoris, Emmanuel, votre femme, elle a toujours un clitoris.
Voilà, c'est ça. Ça se limite au clitoris, quoi.
Ça se limite. C'est quand même l'organe sexuel le plus important pour le plaisir de la femme, quand même, Emmanuel.
Oui, mais on est deux. Et le truc, il est là, c'est que à la pénétration, bon, moi, c'est vrai que pendant, je vais être honnête, pendant 2-3 ans, bon, on a essayé de pas trop parler, enfin, de pas trop s'alarmer, et puis essayer de avec des jeux, de tourner autour de ça. Donc la masturbation fait partie de ça. Mettre des doigts, par exemple, fait partie de ça. Il y a plein de choses qui se sont accordées pendant ces 5 dernières années. Maintenant, c'est vrai qu'on a l'impression que bon, on est au bout du bout, et qu'effectivement, la pénétration, c'est quand même bien de temps en temps, même si c'est pas tout le temps.
Emmanuel, excusez-moi, mais ça va peut-être vous choquer ce que je vais vous dire, mais essayez à ce moment-là la pénétration anale, par exemple. Il y a tellement de choses qu'on peut faire dans la sexualité. Plus vous allez vous focaliser sur cette pénétration vaginale qui visiblement ne fonctionne pas bien pour vous, pour tous les deux, je ne sais pas pourquoi, sans doute parce qu'il y a des problèmes physiques, mais aussi parce qu'il y a des problèmes psychiques, plus vous allez tourner en rond.
Il n'y a pas d'intervention qui existe. Ma question était un peu là, c'était de savoir s'il existait des interventions chirurgicales
au niveau du cerveau.
Oui. Non.
Au niveau du cerveau, non. Bon, là, je réponds à Brigitte, je réponds pas à vous. Au niveau,
vous avez compris, mais
oui, bien sûr. Au niveau vaginal, bien sûr. Mais d'abord, il faudrait savoir vraiment s'il y a quelque chose anatomiquement. Et en plus, dans ce que vous dites, si vous voulez, il y a une petite confusion, si je puis me permettre, anatomique, c'est que c'est pas les nerfs qui sont atteints, hein, c'est les muscles. Ce qui est pas du tout pareil. Et donc il y a pas, les nerfs ne sont pas atteints. C'est le muscle qui est peut-être plus souple. Mais la sensibilité nerveuse,
ça se remuscle.
Ça se remuscle, un muscle, bien sûr.
Est-ce que il existe des tests pour vérifier justement cette élasticité?
Écoutez, Emmanuel, je vous conseille d'aller consulter un gynéco-sexologue qui soit à la fois capable de vous parler sur le plan médical, parce que j'entends bien que c'est sur ça que vous reposez, hein, si vous avez besoin de la science médicale. Mais je pense que il faut aussi qu'il y ait une aide sexologique pour, ouais, dans votre cas.
Tout à fait.
Parce que sinon, vous allez avoir 3 gynécos qui vont vous dire 3 choses différentes et ça va pas vous faire avancer. Donc, essayez de trouver quelqu'un qui soit à la fois gynéco et
tout à fait, et sexo, et puis dans lequel vous ayez confiance tous les deux et que vous alliez voir ensemble et vous voyez les problèmes ensemble. Quitte à ce qu'il y ait de temps en temps des consultations individuelles, mais que vous voyez ça ensemble, voilà. Vous prenez ce problème à bras le corps, parce qu'autrement ça va altérer votre vie de couple et ce serait dommage.
C'est en train, hein, on le sent bien. Puis peut-être une kiné spécialisée dans la rééducation périnéale.
Voilà, il y aura peut-être de la rééducation à refaire, etc.
Prenez les choses en main, si je puis dire, Emmanuel. Merci en tout cas de votre appel et excusez-moi si je vous ai un petit peu bousculé, mais parfois j'ai envie que vous entendiez ce qu'on est en train de vous dire, c'est parce qu'on vous aime, tout simplement.
Oui.
Pierre, bonjour.
Oui, bonjour.
Vive le Jura.
Oui. Donc, il faut que j'explique ma petite histoire.
Allez-y, on vous écoute. De votre première fois, écoutez, c'était dans le Jura.
Voilà, écoutez, donc je suis parti en vacances avec 2 ou 3 copains là-bas à camper, entre Champagnol et Crotenay. Et puis un jour, je suis parti tout seul et j'ai trouvé une belle petite rivière. C'était magnifique, un beau plan d'eau avec un pont voûté et tout. Donc je suis monté sur le pont et je regardais. Et puis en bas, il y avait deux femmes qui se trempaient les pieds jusqu'aux genoux. Et voilà, puis j'étais garçon, je regardais, hein. Et puis tout d'un coup, j'ai entendu aïe, 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 aïe. Alors, téméraire comme je suis, j'ai couru, j'étais donné un coup de main. Et puis voilà, après elle s'est mise sur l'herbe.
Donc c'était une jeune femme qui s'était blessée, c'est ça
qui s'était blessée.
Elle ne criait pas au secours pour rien, quoi.
Voilà, non mais c'était un aïe aïe, vous voyez, voilà. Et puis donc
une bonne action a été récompensée, Pierre.
Et donc je les ai ramenés avec l'autre personne sur la plage. Et puis j'ai voulu regarder son pied. Et puis là, bon, la robe était bien assez haute. Et je me suis aperçu que madame ne portait pas de culotte. Alors j'ai une rouge comme un coq parce que j'étais quand même un peu surpris de voir la belle touffe noire qu'il y avait. Et puis on a discuté un petit peu. Elles ont commencé un petit peu à me charrier. Puis elles m'ont invité. Elles m'ont emmené dans une petite baraque qu'elles connaissaient certainement depuis longtemps, qu'elles étaient certainement de la région. Et là, la baraque, elle a commencé à me tripoter, à m'embrasser, toutes les deux, et puis voilà, je me suis fait passer à la casserole. Mais je vais vous dire une chose.
Pour un coq, c'est normal, hein.
Ouais. Mais je me suis fait plaisir, je vais vous dire une chose, surtout à la fin, quand je suis parti comme un tonneau, J'ai dit, ben, moi, Pierre, ça t'arrivera jamais deux fois dans ta vie.
Ça, ça c'est sûr, vous allez faire des jaloux à l'antenne, là. Hein. Hein vous allez faire des jaloux alors, à l'antenne.
Non, donc, si je comprends bien, votre première fois, c'était avec deux poules.
Ah oui, deux poules. Ah, c'est ouais. Des poules qui, moi, j'avais 16 ans, 17 ans, et elles avaient une trentaine d'années. Hein.
Ah, bah oui, oui, oui.
Donc, ça surprend beaucoup. Et surtout, que quand je vous dis, quand j'étais. Elles ont vu que j'ai piqué le fer. Je sais pas si elles l'ont fait exprès. Elles l'ont fait exprès, après, quand je réfléchis.
Mais bien
quand,
sûr, oui.
Quand j'ai regardé son pied, pas grand chose, hein, et en définitive, la robe était assez haute pour tout voir. Bon, alors j'ai piqué un char comme un gamin, quoi, hein, et puis voilà. Et là, après, la discussion du sur, mais je suis téméraire de nature, elle m'a invité, donc je suis parti avec elle, pas bras dessous bras, mais l'un côté de l'autre, et puis arrive à la baraque, elle me dit, hop, là, voilà, puis ça a commencé, tiens, voilà, tac, 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 et puis voilà. Ça s'est passé comme ça, ça a duré une demi-heure, trois quarts d'heure, je sais pas exactement, mais je peux vous dire qu'après, j'ai profité.
Voilà. Merci Pierre de nous avoir raconté votre première fois. Et
pittoresque.
Et je crois que vous n'êtes pas prêt de l'oublier, évidemment. Merci beaucoup. Rachid, bonjour.
Oui, bonjour.
Bon, alors, votre première fois, vous avez envie de nous raconter votre première masturbation.
Voilà, effectivement. Donc, ma première masturbation, c'était par imitation à des amis qui étaient au mapage. Je disais, je savais pas s'ils éjaculaient, mais en gros, ça se racontait qu'ils éjaculaient. Donc, de façon solitaire, j'ai essayé un peu de faire comme eux. Et j'arrivais à un plaisir, à une sorte, c'était pas, on va dire, le réel orgasme comme je l'ai connu quand j'étais grand, mais une forme un peu, un niveau d'excitation qui ça s'arrête un petit peu. C'était pas l'extase, mais c'était pas désagréable non plus. Et un jour, j'ai remarqué qu'il y a un liquide qui est sorti. Ça m'a surpris, ça m'a fait peur aussi d'un côté parce que je me suis dit, j'ai franchi le pas. Et ça m'a. D'un coup, je suis devenu grand et ce sentiment-là, ça m'a troublé un petit peu. Mais ouais. C'était juste un passage de premier contact et c'était un petit peu ce plaisir-là. Ça ressemblait à certains moments un petit peu comme ce que j'allais faire pipi. J'avais un sentiment un petit peu qui s'approchait à cette sensation-là que j'ai dépassée plus tard.
Ouais. Ben, j'espère, oui. Il y a une sorte de rituel hein, pour un garçon, la première fois qu'il se masturbe et qu'il y a une éjaculation, ça change quelque chose.
Oui, mais ça change dans le psychisme. C'est tout d'un coup, on se sent, ça y est, on est passé de l'autre côté, du côté des hommes. Mmh. Enfin, c'est ce qu'on pense. Hein.
Oui, effectivement, ouais.
Mais c'est vrai aussi que le premier plaisir masturbatoire, il est quand même la découverte d'un plaisir de base, on va dire, et que heureusement, comme vous le soulignez, avec un petit peu l'âge et l'expérience, on dépasse cette simple détente, ce simple assouvissement, on pourrait dire, pour quelque chose qui est plus pertinent, qui est plus fin, qui est plus de l'ordre de la découverte du plaisir et de ces différentes variations.
Et aujourd'hui, évidemment, vous faites bien la différence entre l'éjaculation et le fait d'uriner, hein, Rachid.
Oh, largement,
oui, heureusement.
Ça va sans dire.
Mais oui, mais c'était de l'humour, Hugues, hein, Rachid et Hugues. Vous avez bien compris, j'imagine.
Oui, quand même, on vous connaît un peu.
Merci, Rachid, de votre témoignage, en tout cas. Vous vouliez rajouter quelque chose, peut-être ? Allez-y,
oui, je vous en prie. Effectivement, un petit peu, j'avais une autre expérience qui était complètement différente. C'était à l'âge d'adulte. Et suite à une masturbation, un petit peu, j'ai connu des moments de plaisir qui étaient... un petit peu, on va dire, si je classe, c'était un petit peu plus intense que ce que j'ai eu avec des femmes. Un peu, on va dire, c'est un petit peu arrivé à un niveau d'étourdissement de la tête. Je ne sais pas comment, pourquoi j'arrive à certains moments, pourquoi j'arrivais pas, mais c'était un orgasme qui me prenait, que voilà, un petit peu, on dirait que c'est ma tête qui tournait. C'est un sentiment que je l'avais reçu qu'avec une seule femme, c'était une seule fois. Donc je peux dire, je suis quelqu'un qui a vécu des niveaux d'orgasme un petit peu de niveau basique jusqu'à un niveau là où j'étais un petit peu, je me dépassais. Et il y a un niveau qui était, que j'ai jamais trouvé d'explication, c'était une excitation. Et d'ailleurs, ce que j'avais remarqué, c'est que l'excitation, le moment de masturbation,
pas forcément au niveau d'orgasme. J'ai connu des excitations qui se... Je m'attendais à une explosion. C'était pas une explosion. C'était des excitations lors de masturbation. C'était un petit peu banal. Et l'orgasme, c'était une explosion. Et mais celle qui m'a un petit peu surpris davantage, c'est que suite à une masturbation, il y avait une excitation très importante. Ben, il y avait une éjaculation. Il y a un feu qui s'est éteint, comme ce que si j'étais débranché. J'avais pas l'impression que j'ai eu mon orgasme. C'est arrêté d'un coup. Il y avait une éjaculation.
Mais vous savez, Rachid, c'est tout le mystère de la jouissance. Hein. On monte parfois très très fort. On croit que ça va être quelque chose d'extraordinaire, et puis ça retombe comme un soufflé.
Oui, tout à fait.
Puis parfois ça vient tout doucement, et puis ça explose. Enfin, c'est quand même quelque chose qui est de l'ordre de neurologique. Hein, donc
oui. Puis je crois qu'il y a aussi une chose, c'est qu'il faut qu'on apprenne à discerner ce qui est l'éjaculation chez l'homme et les spasmes vaginaux et etc. chez la femme du plaisir. C'est-à-dire que le plus souvent, c'est lié au plaisir, mais pas tout le temps. On sait très bien que même chez l'homme, quelquefois, l'éjaculation ne produit pas un grand plaisir. Mmh. C'est-à-dire que le niveau de plaisir est dû plus à un dépassement, à un engagement, à une dégustation, à un certain courage. C'est pour ça d'ailleurs que je comprends bien ce que dit Rachid quand il dit mais finalement avec la masturbation j'ai eu quelquefois des plaisirs supérieurs qu'avec une femme. C'est parce que c'est plus simple de soi à soi de se dépasser que quelquefois avec un autre partenaire quel qu'il soit où il y a une espèce de confidence plus difficile à faire.
Absolument. Donc c'est pour ça que c'est compliqué. Il y a à la fois le plaisir qu'on va ressentir et même jusqu'à l'orgasme. Hein. Et puis il y a le phénomène neurologique qui est parfois tout à fait surprenant. Merci beaucoup Rachid.
Retrouvez tous les shows d'RMC en podcast sur rmc.fr.
Et un petit tour du côté de rmc.fr, nous avons Lisiane qui nous envoie ce mail. J'ai l'impression que j'ai un problème par rapport au désir et c'est sans doute dû à un événement lié à mon enfance. J'aimerais par exemple consulter un sexologue qui pratique l'hypnose. On m'a préconisé de plutôt faire confiance à un psychiatre qu'à un psychothérapeute ou simple sexologue. J'habite, on va pas donner le lieu où elle habite, ça c'est pas la peine. Voilà. Alors moi, je suis toujours surprise que lorsqu'il y a quelque chose qui est plutôt dû à du désir, qu'on est donc plutôt dans quelque chose d'ordre psychique, quand tout de suite on propose le psychiatre. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas des psychiatres qui sont de très bons sexologues, hein, bien sûr, mais là en l'occurrence, Lisiane, il me semble que vous avez plutôt besoin de quelqu'un qui va vous écouter et vous aider à vous retrouver, hein, tout simplement. Bon, là vous parlez en plus d'un événement lié à votre enfance. Je répète encore une fois que sur un plan purement médical, le psychiatre il est là pour éventuellement donner des médicaments pour réguler l'humeur, mais pas forcément pour écouter un patient. Voilà, donc, et encore une fois, bien sûr, de nombreux psychiatres, et on en reçoit quelques-uns, sont capables tout à fait d'écouter et de faire une thérapie. Voilà, mais c'est toujours pareil, hein. Je ne sais pas qui vous a conseillé, mais quand vous avez besoin d'une adresse, demandez à votre médecin ou demandez au CHU le plus proche de chez vous, mais ne demandez pas à des amis qui, au fond, connaissent peut-être pas vraiment quelles sont les spécialités de chacun. C'est vrai que même moi, parfois je m'y perds parce qu'on a tellement de sortes de spécialistes et puis en plus on peut avoir un très bon spécialiste dans un domaine et puis un très mauvais dans le même domaine, hein, bien sûr.
Il y a une phrase qui est « les spécialistes ne s'y connaissent en rien en général
». Ça c'est pas gentil, Bernard Werber.
Non mais moi je ferais plutôt affaire à un généraliste. Je crois qu'il faut un moment, ça sert à rien de se focaliser sur un élément, il faut regarder la globalité de l'animal.
Au départ, bien sûr.
RMC, l'amour et vous, Brigitte Lahaie.
On retrouve Marie-Noël et c'est son premier baiser. Robert Zwilly était avec nous ce jour-là.
Bonjour Brigitte.
Bonjour
Robert.
Bonjour.
Votre premier baiser, c'est ça qui vous a provoqué votre premier émoi érotique?
Tout à fait, j'avais 13 ans.
Oui.
Voilà. Et c'était un premier baiser, mais pas seulement, c'était aussi un premier émoi. Et ce qui est assez étonnant, c'est que aujourd'hui, c'est l'amour de ma vie, toujours. Voilà.
Racontez-nous comment ça s'est passé. On veut tout savoir.
Eh bien, nos parents étaient amis, donc ils sont venus dîner à la maison avec Jacques, donc mon conjoint. Et puis, on s'est retrouvés dans la chambre. Et il m'a aidé à faire mes devoirs. Voilà, mes devoirs de géographie, et j'ai tout de suite...
Il est un peu plus âgé que vous ?
Il a 3 ans de plus que moi.
Oui. Donc il avait 16 ans.
Voilà, voilà. Mais j'ai tout de suite ressenti une...
Un trouble ?
Un trouble, une gentillesse, quelque chose de différent. Voilà, et c'est ce qui m'a vraiment troublée chez lui.
Et combien de temps il s'est passé entre cette première sensation et ce fameux baiser ?
Quelques heures, peut-être 2-3 heures.
Ah oui.
Je l'ai beaucoup observé. Quand il faisait mes devoirs, je trouvais ça tellement, tellement gentil, tellement, je sais pas, c'était tellement de sa part gentil que je restais sans mots. Enfin, je l'admirais, je me disais, mais Dieu qu'il est gentil de faire mes devoirs. J'avais 13 ans, je trouvais ça extraordinaire.
En fait, vous étiez à la fois sous le charme, mais aussi sous la protection de quelqu'un qui s'occupait bien de vous. Peut-être, hein, il y avait aussi ça.
Oui. Il y avait quelque chose de cet ordre-là, oui. Mmh. Ouais, ouais.
Et qu'est-ce qui fait au fond, parce que vous dites, il s'est passé 3 heures, mais pourquoi vous avez attendu si longtemps, imaginons que ce soit long. Qu'est-ce qui se passait ?
Bah, les devoirs, il y avait plein de devoirs à faire,
ah,
Robert.
Ouais.
Comment vous étiez pendant ce temps-là ? Vous disiez quoi ?
Extrêmement timide, extrêmement vilaine, avec des boutons plein d'acné. Donc,
ouais. Et qu'est-ce que vous ressentiez du coup ?
Ben, j'étais très intimidée parce que je le trouvais tellement beau.
Ouais.
Et j'arrêtais pas de regarder en fait. Et au moment où il est parti, ben, c'est là qu'on s'est embrassés. C'est venu naturellement, voilà.
Mutuellement ou c'est plus l'un ou l'autre ?
Non, je crois que ça a été mutuellement. Et lorsqu'il est parti, je faisais des bonds toute seule dans ma chambre, je criais, je sautais, enfin c'était un
De joie, de joie,
oui,
j'imagine.
De joie. Oui, de joie. C'était une vraie émotion.
Ce que vous évoquez est assez typique de ces moments où on ressent ses premiers émois, où il y a un état de tension qui est généré bien souvent par une forme d'appréhension. Est-ce que si je tente quelque chose, ça va bien se passer? Comment il me trouve? Est-ce que je suis aimable?
C'est ça.
Est-ce que je vais savoir m'y prendre? Et cette appréhension qui est légitime, bien sûr, elle trouve son origine dans nos peurs. Hein, nos peurs, nos plus intimes. Et c'est quand ça se passe bien, il y a une telle tension générée par cette peur et le risque que ça se passe mal, que sa concrétisation positive génère cette émotion si forte, hein, qui fait qu'on saute partout, qu'on marche sur l'eau,
et
qu'on se sent capable de tout faire.
Et qu'on n'arrive pas à s'endormir.
C'est vrai, Brigitte, ça vous arrivait souvent de ne pas réussir à vous endormir à cause de vos émois.
Bah oui, après une soirée avec son amoureux trop intense, on a du mal à dormir, c'est sûr.
Ah ouais.
Vous arrivez à dormir, vous, Robert Zulli, après ça?
Un moment, oui, il faut bien. La raison l'emporte sur l'émotion, quelle tristesse.
Hein. Ah oui, on est déçus, hein, Marie-Noël.
Enfin, ce qui est extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, on est toujours ensemble, voilà.
Ah oui.
Donc, ça, c'est magnifique. On a 2 beaux enfants et on continue à s'aimer. Voilà.
Ouais, et on le sent dans votre voix que vous.
C'est mon amour fou, oui. Je l'embrasse d'ailleurs parce que je crois qu'il écoute. Voilà.
Il vous écoute en plus.
Ouais, ouais.
Ben, merci de nous avoir fait partager ce joli moment.
C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.
Au revoir, Marie.
Au revoir.
On continue avec Simon qui est avec nous. Bonjour, Simon.
Bonjour, Brigitte. Bonjour, Robert.
Ah, bon, vous avez eu un premier émoi olfactif, vous.
Oui. C'est vrai que c'est assez particulier. En fait, depuis tout petit, dans ma famille, on a la chance d'avoir un nez particulier, d'avoir la chance de pouvoir ressentir beaucoup de choses. Je travaille actuellement dans le milieu du vin. Et j'étais à l'école primaire, en CM2. Et une fois par semaine, on avait une professeure d'anglais qui venait dans la classe pour nous enseigner les rudiments de l'anglais. Et c'était une très belle femme qui devait avoir à l'époque, je sais pas, la trentaine, et qui était vraiment magnifique, et qui avait un parfum si intense que lorsqu'elle est rentrée dans la classe, en plus je m'en rappelle encore, alors que j'ai déjà 24 ans, et elle est rentrée dans cette classe, du vent, et on a senti ce parfum, et il m'a traversé. Encore aujourd'hui, je cherche ce parfum désespérément, parce que j'ai été bouleversé par cette odeur.
On ne le trouvait pas, surtout. Ça ôterait une part d'imaginaire qui est tellement belle quand vous le racontez comme ça, que ça serait dommage qu'il y ait une confusion entre le réel et l'imaginaire. Vous seriez peut-être déçu.
Oui. Mais c'est vrai que voilà, c'est un souvenir... Alors c'est vrai que de la part de garçons, c'est pas forcément l'image la plus érotique, érotisée qu'on peut imaginer.
Si, vous savez, Simon, les odeurs ont beaucoup d'importance dans notre sexualité. On reste quand même aussi des animaux.
Les odeurs, ouais. Le toucher. Ouais.
Quand on dit je peux pas la sentir ou je te sens bien.
Je t'ai dans le nez.
Non, c'est tout à fait. Moi, j'entends bien ce que vous dites. Cela dit, je suis d'accord avec Robert, vaut mieux pas rechercher ce parfum. Mais si vous y tenez vraiment, ce serait peut-être pas si compliqué que ça de retrouver ce professeur d'anglais et lui poser la question du parfum qu'elle avait à l'époque.
Mais au fond, c'est ce qui fait.
Vrai, peut-être que implicitement, j'essaie de garder ce fantasme, cette image que j'avais, cette odeur surtout, et de me dire que j'aimerais un jour, mais bon, ça. On est toujours dans le fantasme, mais un jour la croiser simplement dans la rue, qu'elle ait ce parfum-là, et lui dire je me rappelle de votre parfum, sûrement vous, pas de moi, mais de votre parfum, je m'en souviendrai toute ma vie. Oui. Mais peut-être que je lui demanderai même pas ce parfum-là. Mais ça fait des années, hein. Maintenant, j'ai la chance de travailler justement dans le milieu, pas du parfum conventionnel, mais du parfum que procure le bouquet que peut procurer.
Oui. Et si ça avait conditionné ce métier?
Peut-être.
Est-ce qu'à chaque fois que vous humez un vin, vous n'êtes pas en train de chercher ce parfum sans le savoir?
Je ne sais pas. Peut-être que je n'irai pas jusque-là, mais c'est vrai que les vins qui m'ont procuré le plus de sensations, qu'ils soient visuels, olfactives ou gustatives, ont été des vins qui s'approchaient des vins un peu torréfiés, un peu épicés, un peu puissants. Et c'est vrai que, oui, peut-être implicitement. Après, c'est vrai que dans notre métier, on ne doit pas avoir de préférence, mais on en a tous. Et c'est
bien
vrai
sûr.
Que,
mais ça veut dire, Simon, ça veut tout simplement dire que votre goût va plutôt pour ce parfum-là, quoi qu'il en soit, que ce soit par rapport au vin, que ce soit par rapport à la femme. Ça vous arrive d'offrir un parfum à une femme?
Oui, et bizarrement, auprès de ma compagne, c'est des parfums qui sont diamétralement opposés à celui-là.
Ah, c'est intéressant.
C'est plus des parfums... je dirais fruités qui sont
moins capiteux,
plus florales plutôt qu'épicées.
Elle était brune.
Elle était, alors c'est particulier, elle était, je dirais blonde, mais je pense qu'elle était brune au départ. Elle avait une coupe, c'est magnifique quand j'y repense, mais elle avait une coupe un peu années 30, vous savez, les cheveux bouclés, légèrement un peu relevés. Elle était toujours vêtue en noir. C'est une femme très très classe, très très imposante, qui avait une voix absolument magnifique. À chaque fois qu'elle se penchait pour vérifier mon devoir, j'ai jamais eu autant d'aussi bonnes notes en anglais, je crois. Mais c'est vrai que c'est cette présence. La présence n'est pas simplement physique. Elle est vraiment pour moi olfactive. Et là, c'était vraiment. Extraordinaire. Mais je souhaite à tout le monde de pouvoir avoir ça. C'est vrai que des fois, dans la vie quotidienne, on va dans des maisons, on se souvient d'une odeur, on dit une maison a une odeur. Et pour en avoir fait l'expérience, en tout cas, aucune femme n'a la même odeur pour moi. C'est incroyable.
Mais vous savez, Simon, le tout petit nourrisson, quand il arrive au monde, c'est presque plus par l'olfactif qu'il va remonter vers le sein de sa mère, hein.
Oui, tout à fait.
Donc, vous êtes encore très, 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 comment dirais-je,
très proche de ces pulsions infantiles.
Oui,
alors.
Tout à fait. Oui, mais c'est formidable, parce que quand vous nous le racontez,
oui, vous n'avez pas fermé la porte à ça. Tant
c'est
mieux.
Formidable.
Ben oui. Mais oui, parce que vous, quand on vous entend, on sent bien la force de cette sensation et à quel point vous la faites revivre au fond toujours. Et il y a toujours des occasions pour ça.
Mais c'est vrai que je dirais pas que c'est tous les jours, que c'est tout le temps, mais c'est vrai que quand on est des fois à des moments un peu nostalgiques, on repasse le passé, et c'est un souvenir qui reste toujours. C'est quand on imagine ses anciennes années école ou ses anciennes années ado, et ce souvenir reviendra toujours parce que pour la vie, en tout cas à mon sens, pour les garçons, et ça a été très compliqué pour moi, l'approche de la sexualité, ce souvenir là je souhaiterais à tous les garçons, les jeunes hommes, de pouvoir le vivre. c'est vrai que ça m'avait tellement bouleversé que... Ouais, moi je suis encore, hein, mais dans la recherche de la sexualité, on recherche ses odeurs, on recherche ses sensations, et...
Mais oui, c'est bien. C'est bien aussi, Simon, d'avoir une quête, en quelque sorte, même si le but, c'est pas forcément de l'atteindre.
Non.
C'est un chemin et c'est intéressant.
RMC, le meilleur de Brigitte Lahaie.